Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Aujourd'hui nous sommes le 23 mai et vous nous rappelez que Carl von Linné est un scientifique suédois né le 23 mai 1707.
Eh oui, et il est incontestablement l'un des plus grands botanistes de tous les temps. Et il me semblait donc juste en ce jour anniversaire de célébrer sa mémoire. Revenons sur l'histoire de cet homme. Linné vient d'une famille modeste, son père et son grand-père sont pasteurs, sa maman est fille de pasteur. Le petit Carl a tout juste 9 ans quand il quitte sa maison pour aller étudier dans une ville située à 40 kilomètres. On imagine sans peine le chagrin de cet enfant séparé longtemps de ses proches, hors de question à l'époque de rentrer le week-end.
Une scolarité brillante.
Oui, l'enfant est doué incontestablement, mais il s'ennuie. Ce qu'il aime, c'est contempler la nature, les animaux et les plantes. Carl s'ennuie, certes, et il s'inquiète aussi. Ses parents ont décidé pour lui que sa carrière sera, hérédité oblige, religieuse.
Sauf que l'intervention d'un enseignant va changer la vie de ce Carl von Linné.
Et oui, et cet enseignant est son professeur d'histoire naturelle qui arrive à convaincre les parents d'accepter que leur enfant suive des études de médecine et de botanique. Alors Carl von Linné, en 1727, intègre l'université de Lund et il s'inscrit l'année suivante à celle d'Uppsala, l'école la plus prestigieuse de Suède. Il est encore étudiant, je devrais même dire, il n'est encore qu'étudiant quand il décide de classer les végétaux en fonction de leur caractère sexuel.
1727 en Suède, c'est l'époque de la Révolution.
Et oui, cette manière de classer les végétaux est insupportable pour tous ceux qui sont prudes, car à l'époque, je vous rappelle, est prude et très religieuse. Parler du sexe des plantes comme le fait Linné ne fait pas très sérieux et Linné se voit même qualifié par ses pairs de botaniste pornographe. Malgré les critiques, il continue ses travaux et c'est à lui que l'on doit la nomenclature binominale qui permet de distinguer, de classer et surtout d'identifier les animaux et les plantes et les désigner grâce à deux mots le plus souvent d'origine latine, le genre et l'espèce. Quand vous parlez d'un marronnier d'Inde, d'Aesculus hippocastanum, eh bien vous faites référence
C'est lui, Carl von Linné, qui a rangé tout ça dans les bonnes cases. Et tous les botanistes d'Europe voulaient à l'époque converser avec lui.
Et les souverains comme Louis XV, qui s'intéressent de très près à ses travaux, ou encore Catherine II de Russie, la grande Catherine de Russie, qui entretient avec lui une correspondance assez folle. Elle lui envoie même des petites graines de temps en temps. Il s'envoie des petits échantillons. Jean-Jacques Rousseau, lui aussi, se passionne pour le botaniste. J'ai retrouvé une petite lettre en consultant la bibliographie. Elle est datée du 21 septembre 1771 et le philosophe lui exprime dans un courrier toute son admiration. Sa lettre se termine ainsi. « Adieu, monsieur, continuez d'ouvrir et d'interpréter aux hommes le livre de la nature. » Je trouve ça merveilleux. Quelques mois plus tard, Carl von Linné décède, il avait 70 ans, et pour vous dire à quel point l'homme était connu et célébré de son vivant, il fut enterré là où il est mort, dans la cathédrale.
C'était donc en 1777, 70 ans après sa naissance, si j'ai bien compté.
Bravo. on a quand même sorti une petite hésitation.
77 plus 7, c'était pas trop compliqué.
71.
Oui, vous avez un doute? Vous êtes en train de refaire les calculs. Il est né en 1707. 70 ans plus tard, il meurt. Il est donc mort en 1777.
Oui, c'est logique.
Bon, voilà. On va pas lui faire non plus la matinale là-dessus.
Mais... non, on est bien d'accord.
Allez, vos conseils à présent et vos réponses aux questions des auditrices et des auditeurs de France Inter. Antoine habite la ville de Graz. C'est en Autriche. Alors, cette ville a construit un barrage sur le fleuve. Résultat, des centaines d'arbres, essentiellement des frênes et des hêtres, ont les racines sous un mètre d'eau. Et la question d'Antoine, est-ce que ces arbres pourront survivre?
Ma réponse va peut-être vous surprendre. Alors pas du tout pour la survie des végétaux, ils sont condamnés à mort, incontestablement, mais pour vous expliquer pourquoi les arbres vont mourir. Un arbre est fait de branches, de feuilles, de troncs et de racines. C'est un être vivant. Et quand l'eau recouvre les racines, celle-ci ne peut plus respirer. La racine ne peut donc plus exercer ses fonctions, entre autres de se nourrir de la terre et de transmettre la sève dans les parties aériennes. La plante ne pouvant plus vivre normalement, ne pouvant plus assimiler, que fait-elle? Elle se dégrade. Et parce qu'elle est sous l'eau, donc elle se dégrade très rapidement. Et paradoxalement, quand une plante a les pieds dans l'eau, elle meurt de soif parce que les racines ne peuvent plus envoyer l'eau dans la partie aérienne. Mais les arbres, effectivement, sont condamnés. Ne pas confondre les végétaux qui sont adaptés pour vivre dans les endroits inondés et ceux qui ne le sont pas. J'en profite également pour pour rappeler et pour un petit peu tordre le cou à quelques idées reçues. On pense souvent que le peuplier, par exemple, consomme davantage d'eau qu'un chêne parce que le peuplier peut supporter d'avoir les pieds dans l'eau. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'une plante est adaptée à être dans l'eau qu'elle consomme plus d'eau. Ça n'a rien à voir.
Véronique nous dit qu'elle a deux figuiers dans son jardin. Or, cette année, un seul a sorti des feuilles, l'autre semble mort. Il a de grosses fentes sur le tronc. Que s'est-il donc passé, vous demande Véronique.
Il faut vérifier dans l'environnement direct. Vous savez, généralement, il n'y a pas de secret. Quand une plante meurt brutalement, alors les arbres, malheureusement, sont des êtres mortels qui peuvent du jour au lendemain disparaître. Mais généralement, c'est qu'il y a eu un choc. Et souvent, on oublie, eh bien, les travaux de ravalement de la maison, le passage d'une tranchée pour installer le gaz, le téléphone, ou je ne sais quoi. Il y a souvent des travaux. Alors, on fait une tranchée au printemps ou en été, on rebouche, une saison passe, une deuxième saison passe, oui. Sauf que l'on a endommagé les racines, on y revient. Les racines ne peuvent plus, là encore, assumer leur fonction et l'arbre dépérit. Il faut regarder s'il n'y a pas eu, effectivement, dans l'environnement, des travaux qui ont endommagé l'arbre suffisamment pour le tuer.
Encore une question à propos du confinement. Monique vous demande, elle nous signale d'abord qu'elle n'a pas pu aller tailler ses rosiers, ses arbustes au mois de mars dans sa maison de campagne. Puis-je maintenant rattraper le retard ?
Doucement. Pour les arbustes, pas de problème. Pour le rosier, si on taille les rosiers maintenant, attention, on va se priver d'une jolie floraison. On ne taillera donc maintenant que les branches pour maintenir le végétal à une hauteur raisonnable. Les branches mal disposées, blessées ou vraiment qui gênent. Sinon, on ne touche pas à grand-chose. On va sinon tout mettre par terre.
Allez, un dernier conseil.
Eh bien, on se rend, c'est ouvert, c'est une bonne nouvelle. Dans les douves du château de Sourches, c'est dans la Sarthe, c'est pas très loin du Mans, pour visiter, eh bien, ce conservatoire de la pivoine. Les pivoines sont des fleurs merveilleuses.
Comme vous le savez, c'est mes préférées.
Elles sont dans votre bureau, elles vous attendent, Patricia. Je suis avec une gerbe incroyable. L'occasion de rencontrer quantité de passionnés, comme le spécialiste incontesté de la pivoine, Alain Tricot, qui est sur place. Donc, c'est le conservatoire de la pivoine. C'est 2326 variétés de pivoine à contempler. Du grand bonheur.
Votre nez s'allonge.
Merci Alain Baraton. On vérifiera si le nez est aussi long demain à la même heure. Merci Alain et à demain.